Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Matura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Apis mellifera mellifica, film d'horreur aujourd'hui. Bonjour Gaël.
Bonjour Lisa.
On parle de la séance de septembre, rucher pédagogique de Caylus, film d'horreur. Je disais, je vais avoir des images abominables.
Oui, je viens de présenter à Lisa notre ennemi public numéro un sur les colonies d'abeilles, c'est le varroa, un acarien parasite. Donc c'est de lui dont on va parler aujourd'hui parce que en tant qu'apiculteur, apicultrice, c'est très important de connaître ce parasite qui impacte beaucoup nos colonies.
Voilà. Apparu en France en 1982, tu disais, il vient d'outre-mer.
Voilà, c'est ça, il vient d'Asie. Il s'est répandu partout à travers le monde avec les échanges commerciaux de ruches, de colonies. Et puis, comme tu l'as précisé, arrivé en 1982 en France. Donc, au début, on n'a pas trop compris pourquoi les ruches s'effondraient, pourquoi il y avait des grosses mortalités, des nouvelles maladies qui sont apparues aussi avec ce varroa. Et puis, petit à petit, le monde vétérinaire et les labos ont fait des recherches, les scientifiques. Donc maintenant, on sait un peu mieux se défendre contre l'infestation de varroa, mais il faut malgré tout rester très vigilant.
Déjà, il faut apprendre à le voir, à le reconnaître sur ses colonies.
Voilà. Donc, alors, ce petit acarien, il est tout petit, hein, il fait 1,5 mm sur 1 mm. Il est tout aplati. Il brille un peu, il a une couleur marron cuivre, comme s'il avait fait un henné. Voilà. Donc celui qu'on voit, en fait, ce sont les femelles que l'on voit, les femelles adultes. Et souvent, il faut une loupe pour pouvoir le voir. Donc soit on voit le varroa qui est tombé des abeilles, parce qu'on a placé des plateaux sous les ruches, et il tombe sur ces plateaux, donc on peut les déterminer ainsi, ou alors on les voit parfois accrochés sur les ouvrières. Quand on les voit accrochés sur les ouvrières, c'est vraiment pas bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a une grosse infestation dans la colonie. Voilà. Et ce parasite, je vais vous expliquer un peu son cycle de vie, parce que quand on comprend comment il se reproduit, après on comprend mieux comment on peut essayer de lutter contre.
Éloigner les enfants du poste.
Alors, déjà, il faut se dire que ce varroa, il a deux parties de sa vie qui se passent dans des endroits différents. Il y a une partie de la vie du varroa où il va être enfermé dans une alvéole d'abeilles et où il va se reproduire et où il va parasiter une larve d'abeille. Et puis, quand cette larve d'abeille va émerger de son alvéole, le varroa sera adulte et lui aussi va sortir de l'alvéole. Ensuite, il va s'agripper sur des ouvrières et il va pouvoir se faire voyager, se faire transporter gratuitement par des abeilles. Et ça, c'est la phase qui va lui permettre de contaminer d'autres ruches. Parce qu'il faut se rappeler qu'une ouvrière butineuse est acceptée dans toutes les ruches. Pensez que vous rentrez de vos courses avec vos sacs pleins, même si vous ne rentrez pas chez vous, que vous allez chez le voisin, le voisin il va vous accepter parce que vous avez des sacs pleins de courses. Donc les abeilles butineuses, c'est pareil, elles ont les pelotes de pollen ou le nectar. Donc toutes les colonies les acceptent. Et ensuite, il y a une autre catégorie d'abeilles qui est acceptée dans toutes les ruches, ce sont les mâles. Même si le mâle vient de ma ruche à moi, ils peuvent rentrer dans les ruches de Lisa, par exemple, ou les ruches de CFM. Et donc, si vous avez un varroa accroché sur un mâle ou sur une butineuse, ce varroa va rentrer dans les autres ruches, va se décrocher de l'abeille, et ensuite va rentrer dans une nouvelle alvéole, et là, son cycle de reproduction va démarrer.
Alors, à noter qu'il n'est pas juste simplement accroché, passager, non, il fait du gros dégât.
Oui, il fait du dégât parce qu'effectivement, ce varroa, quand il est accroché sur l'abeille adulte, il en profite pour se nourrir. Donc, on a longtemps pensé que le varroa ne ponctionnait que de l'hémolymphe. Donc, l'hémolymphe, c'est le sang des abeilles. Ça n'a pas la couleur de notre sang, c'est un liquide incolore. Et c'est dans ce liquide que baignent tous les organes de l'abeille. Cet hémolymphe, c'est très riche en protéines et en éléments nutritifs. Donc le varroa, il susote cet hémolymphe, donc il y en a moins de disponibles pour l'abeille. Mais aussi, on sait maintenant depuis, on va dire 2-3 ans, on le sait avec certitude, le varroa mange les réserves de graisse de l'abeille. Donc il lui mange, entre guillemets, ses poignées d'amour. Donc moi, ça m'arrangerait bien aussi que s'ils pouvaient manger les miennes, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Pas comme ça, pas comme ça.
Alors en fait, ces réserves de graisse chez l'abeille adulte, elles sont très importantes parce qu'à la fois, ça va être des réserves de graisse pour l'hiver, pour les abeilles d'hiver, donc pour passer la mauvaise saison. Et puis ces réserves de graisse, c'est ce qui lui permet d'alimenter certaines de ses glandes qui lui permettent de fabriquer de la gelée royale. Je rentrerai pas plus dans les détails du fonctionnement. Mais donc, si vous avez moins de réserves de graisse disponibles, soit vous passez moins bien l'hiver, ou alors, soit vous êtes en moindre capacité pour fabriquer gelée royale. Donc, dans tous les cas, ça a un impact négatif.
On disait aussi, juste avant d'enregistrer cette émission, qu'ils volent moins vite, il y a moins de spermatozoïdes chez les bourdons. C'est une catastrophe, ce truc.
Tout à fait. À partir du moment où le varroa s'est installé dans une colonie, comme il rend les abeilles faibles, ça a plein de conséquences. Donc les ouvrières aussi ont moins de capacité sur leur système nerveux. Donc elles enregistrent moins bien les lieux de butinage, elles donnent moins bien les informations à la colonie. Tu le précisais aussi sur les mâles, donc ils sont moins fertiles. Un mâle en bonne santé, il a à peu près 8 millions de spermatozoïdes, ce qui est pas rien. Et un mâle qui a été infecté ou qui subit les conséquences du varroa, il va avoir 4 millions de spermatozoïdes. Et en plus, ces spermatozoïdes, ils vont être moins vifs et moins bons pour la reproduction. Voilà. Et les abeilles vont avoir des abdomens plus courts. Et puis, elles vont se retrouver avec plein de maladies, dont une qui est vraiment le signe d'une infestation varroa, c'est la maladie des ailes déformées. On voit des abeilles adultes avec des petites ailes toutes collées, comme si on les avait déchirées. Donc les abeilles sont pas en capacité de voler. Elles sont évacuées des colonies et puis elles ont une vie très raccourcie. Donc voilà un peu une partie des conséquences de varroa.
Alors elles tentent de se protéger, elles essayent de s'épouiller, tu me disais.
Tout à fait. Donc il y a des colonies qui ont une capacité d'hygiène, de nettoyage plus importante que d'autres. Et donc, elles vont pratiquer un épouillage sur leurs consœurs adultes, entre elles, comme dans une ruche, les abeilles, elles se marchent toutes les unes sur les autres. Et elles sont toujours en contact, puisqu'elles échangent des phéromones, et elles échangent aussi de la nourriture par la bouche. Donc, elles sont toujours en train de se toucher. Et donc, quand il y a une ouvrière qui voit qu'une autre abeille a des varroa sur elle, elle va essayer de décrocher le varroa. Voilà. Elles font aussi de l'épouillage sur les larves et les alvéoles. Quand une abeille nourrice sent qu'il y a trop de varroa dans une cellule, la cellule de la larve est fermée, l'ouvrière nourrice, elle va décapsuler, elle va ouvrir cet alvéole et elle va sacrifier la larve pour essayer qu'il y ait moins de varroa qui se reproduisent à l'intérieur. Donc des fois, ça fait des gros dégâts parce que les ouvrières suppriment leurs propres larves. Donc évidemment, le taux de reproduction dans la colonie d'abeilles tombe pas à zéro, mais beaucoup amoindri. Et souvent, l'apiculteur se demande, mais pourquoi cette colonie est faible? Pourquoi elle se développe pas bien? C'est varroa.
Et alors, déjà qu'il est assez dégueulasse hein, dans la vraie vie, sa reproduction, ses deux vies sont absolument abominables, tout autant.
Voilà, donc à l'intérieur de l'alvéole. Donc alors, le varroa, il a développé plein d'aptitudes pour que les abeilles le détectent pas trop ou le moins possible. Donc il va faire son cycle de reproduction bien au chaud dans une alvéole d'abeilles. La reine abeille va pondre un œuf dans une alvéole. Et au neuvième jour, cet alvéole va être operculé, va être fermé avec de la cire pour que la larve d'abeille puisse faire sa transformation, devenir une nymphe puis une adulte. Et ben, juste avant que cet alvéole soit operculé, le varroa le sent, parce qu'il y a émission d'une hormone, et la femelle varroa, hop, va rentrer dans l'alvéole juste à ce moment-là. Et hop, derrière elle, la porte se referme. Donc, femelle varroa se retrouve bien au chaud, avec de la nourriture, puisqu'il y a toute la bouillie qui a été préparée pour la larve d'abeille. Eh bien, varroa va manger cette bouillie. Et puis ensuite, quand il n'y aura plus de bouillie à consommer, varroa va ponctionner directement sur le corps de la larve. Et puis une larve d'abeille, c'est un gros asticot blanc. C'est tout mou, il n'y a pas de résistance. Donc vous imaginez bien que c'est facile de percer cette petite peau fine et puis de susauter les bonnes protéines du corps de la larve. Une fois que femelle varroa s'est nourrie, elle est en forme, eh bien, elle va pondre des œufs, puisqu'elle a été fécondée précédemment. Donc, elle pond ses œufs. Et là, incroyable, premier œuf pondu, c'est un mâle. Quelques heures plus tard, elle va pondre d'autres œufs, qui ne seront que des œufs femelles. Le mâle, pondu en premier, va arriver à maturité sexuelle avant ses sœurs. Et dès que ses sœurs sont elles aussi arrivées à maturité sexuelle, le mâle, leur frère, va les féconder. C'est quand même incroyable.
Et l'espèce survit quand même.
Et l'espèce survit. En fait, il n'y a pas de consanguinité chez varroa. Alors que sur beaucoup d'autres espèces, même d'insectes, il faut savoir que chez les abeilles éliminent parfois certains mâles parce qu'elles sentent qu'il y a une histoire de consanguinité. Donc les abeilles luttent contre la consanguinité. Chez varroa, consanguinité, pas un problème. Ça fait même partie du fonctionnement. Donc voilà, donc dans cet alvéole d'abeilles, on va se retrouver avec 3, 4, 5 femelles varroa qui viennent de se faire féconder par leur frère. Le mâle varroa, il est tout petit, tout blanc, il est maigrelé, pof, lui, il va mourir, puisqu'il a, il a rempli son rôle. Et les femelles varroa vont continuer à prendre des forces, à finir leur transformation, leur peau va durcir, et puis là, l'abeille... l'abeille va naître. On imagine qu'elle a réussi à survivre à ce parasitisme. Et au moment où l'abeille va naître, eh bien, les femelles varroa sortent elles aussi de l'alvéole. Elles s'accrochent sur le dos ou l'abdomen d'autres abeilles adultes. Et donc, à partir de ce moment-là, elles sont en capacité de se faire transporter et d'aller coloniser une nouvelle alvéole où elles pourront pondre dedans puisqu'elles sortent déjà fécondées. Donc vous voyez un peu comme c'est bien organisé ce varroa.
Et maintenant qu'on est absolument terrifié et tétanisé, est-ce qu'on a possibilité de lutter contre cet truc infâme ?
Oui, donc heureusement il existe des traitements. Donc ça c'est tout le savoir-faire de l'apiculteur, hein, de bien surveiller ses colonies, de savoir mettre ses traitements au bon moment, de surveiller l'efficacité de ces traitements, parce que c'est pas tout de prendre un médicament, mais il faut, faut voir que c'est efficace.
Mais après, tu disais, c'est vraiment microscopique. Déjà, il faut arriver à peut-être voir si elles ont les ailes froissées ou un abdomen trop petit, mais c'est vraiment quelque chose de tout petit, qui est quand même pas si petit que ça, puisque sur un humain, ça correspondrait à...
à un gros lapin de 7 kilos qu'on aurait d'accrocher entre les omoplates.
C'est formidable, voire deux ou trois. Donc.
Et oui, parce que parfois, il y a plusieurs varroas sur une seule abeille. Alors, pour détecter ce varroa, en fait, il existe des méthodes. Donc, depuis l'arrivée du varroa, on utilise des ruches avec des plateaux entièrement grillagés. Parce qu'en fait, ça, c'est un moyen de lutte. C'est-à-dire que quand le varroa se décroche ou est décroché de l'abeille, il tombe à travers ce plateau grillagé. Et il tombe par terre, il peut pas remonter dans la ruche. Donc ça, première méthode, on l'empêche de re-rentrer. Donc quand on veut savoir s'il y a des varroa, sous ce plateau grillagé, on met une plaque et on laisse cette plaque pendant 2-3 jours. Après, on revient et on regarde sur cette plaque. Et là, on peut voir les varroa qui sont tombés et après, on les compte. Donc si on a 2 varroa par jour tombés, ça va. On va dire que c'est une infestation que la colonie peut encore gérer. Si on se retrouve avec 10 varroa par jour, 15 varroa, 20 varroa par jour, bon là, c'est la cata, et là, l'apiculteur doit agir. Donc après, pour agir, soit il a des moyens mécaniques, donc par exemple, il va faire une division. Rappelez-vous, nous avons parlé de la division sur cette chronique. Hein, donc d'une ruche, on va la diviser en deux, Et donc là, en fait, on divise en deux la population de varrois. Ça fait redescendre la pression de parasitisme et la colonie a le temps de se relancer un peu. Il y a un autre moyen mécanique qui est un peu barbare, mais qui malgré tout est très efficace. On va détruire le couvain de mâle, les larves de mâle. Parce qu'un mâle d'abeille fait son cycle de vie en 24 jours. Et les varrois préfèrent aller s'installer dans des cellules de mâles puisqu'ils vont pouvoir pondre quelques œufs supplémentaires. Une ouvrière, elle, se développe en 21 jours. Donc ça fait 3 jours de plus. Et varrois met à profit ces 3 jours de plus. Donc quand on détruit du couvain de mâles, on fait baisser le nombre de varrois qui vont naître. Donc voilà, ça c'est des moyens mécaniques. Et après, il y a des moyens eh bien chimiques. Donc là, on va appliquer des médicaments. Alors avant, on faisait qu'un traitement par an. Maintenant, on est plutôt à 2 traitements par an. Un traitement de printemps pour les aider à bien passer la saison et un traitement d'automne pour faire redescendre cette population de varrois qui monte à des milliers d'individus dans la ruche. Alors, sur ces traitements chimiques, bah, il existe des traitements vraiment chimiques et puis il existe des traitements utilisables en agriculture bio. D'accord ? Donc, chacun fait ses choix. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de changer tous les 2 ou 3 ans parce que varroa est capable de développer des résistances aux molécules, que ce soit des molécules chimiques ou que ce soit des molécules issus de chimie naturelle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, lorsqu'un apiculteur met en place un traitement, il faut bien respecter les dates du traitement et les posologies, comme on dit. Parce que si on commence à faire n'importe quoi, à se dire, oh ben tiens, je vais doubler la dose, ou alors on me dit que cette lanière, il faut la poser 10 semaines, ben moi, c'est pas grave, je vais la laisser tout l'hiver, eh bien non, parce qu'en fait, c'est ça, ce sont ces mauvaises pratiques qui font qu'il y a des développements de résistance chez varrois. Donc il y a certaines zones en France où ils commencent à être embêtés parce que les populations de varrois ne réagissent plus aussi bien au traitement. Elles sont résistantes, donc les traitements sont moins efficaces. Donc voilà. Donc au rucher école, eh bien on montre comment voir ces varrois, comment les compter. Il y a une méthode au sucre glace, c'est assez rigolo. Faudra venir voir. Mm-hmm. Et puis aussi, on montre tous les traitements. Donc on montre tous les traitements possibles, leurs avantages et leurs inconvénients. Parce qu'évidemment, rien n'est idéal. Et ensuite, les apiculteurs font leur choix en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils aiment, de leurs convictions. Mais nous, on montre toutes les façons de faire. C'est notre parti pris.
Ah ben, rucher école, tout est dans le nom. La merveilleuse voilà. Animatrice de ce rucher, Gaëlle Mathurin. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre très rapidement, parce qu'on a dépassé à peu près de moitié la durée habituelle de cette chronique. On a doublé. Comment ça va au rucher? Comment vont les abeilles?
Alors les abeilles, les colonies vont bien. Donc moi je suis passée le 14 août pour leur poser le traitement contre le varroa. Donc c'est un traitement chimique que j'ai mis, hein, malgré qu'on soit CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Moi je leur mets des lanières chimiques tout simplement par facilité. Parce que comme je suis pas là tout le temps et que j'ai d'autres actions... Pour moi, c'est plus simple. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de traitements bio qui n'aiment pas du tout la canicule. Donc, au 14 août, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, ensuite, je suis repassée. Début septembre, j'ai été voir si elles avaient des réserves alimentaires. Donc, elles n'en ont pas. Elles ont tout mangé pendant le mois d'août parce qu'il a fait chaud et sec. Il n'y a pas de fleurs. Donc, j'ai commencé à les nourrir un petit peu. Mais les colonies vont bien, elles sont saines, il n'y a pas de maladie. Il y a du couvain, ça veut dire que la reine, malgré le varroa qui est dans toutes les ruches, hein, donc malgré le varroa et malgré un peu le manque de réserve, les reines pondent, donc c'est bon signe. Et là, nous y retournons incessamment sous peu pour à nouveau vérifier les réserves. On va sûrement leur remettre un petit peu à manger. Et puis, commencer les visites d'automne. Et commencer à les préparer pour cet hiver. Voilà. Donc en fait, on leur réduit l'espace pour pour qu'elles aient moins d'espace à chauffer, parce que si la colonie est plus petite, on n'a pas besoin de lui laisser un loft de 300 mètres carrés. Hein. 100 mètres carrés lui suffiront.
Trop de luxe. Le prochain, pour s'inscrire pour l'année 2021 au Ruchet, ce sera en janvier, pour faire toute une année avec à peu près 2 rencontres par mois.
C'est ça.
Je progresse, hein.
Ouais, bravo.
On peut se renseigner en allant faire un petit tour du côté du lac de la Barde où se trouve l'appart à Caylus, où se trouve le rucher pédagogique, le CPIE, Alpaïs des Bonetta. N'allez pas voir, n'allez pas googliser le Varrois.
Voilà.
Ça ne sert à rien. Vraiment. Sur ce, merci beaucoup, Gaëlle.
Merci, Lisa. À bientôt.
Au revoir.